Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette première émission sur Charles le Téméraire, duc de Bourgogne de 1467 à 1477. Nous retrouvons en effet l'État bourguignon au XVe siècle avec Philippe Contamine et Bertrand Schnerbe. Philippe Contamine est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien médiéviste, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, et ses travaux portent sur la guerre, l'État, la noblesse, l'économie et la vie privée entre le XIIIe et le XVe siècle. Bertrand Schnerbe, lui, est spécialiste de la société et des institutions bourguignonnes des XIVe et XVe siècles, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lille 3 et auteur de l'État bourguignon 1363-1477, publié chez Perrin en 99 et réédité chez Perrin dans la collection Tempus en 2005. C'est le livre qui a accompagné toutes ces émissions sur les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour madame.
Je me réjouis de poursuivre en votre compagnie notre série sur les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois. Et Charles de Bourgogne, fils unique et unique héritier de Philippe le Bon, est né à Dijon en 1433, est mort à Nancy en 1477. Et dans cette première émission sur Charles, le duc Charles, dit le téméraire, nos invités évoqueront sa jeunesse, sa formation, du temps où il était seulement comte de Charolais, puis le conflit qu'il opposa à Louis XI de 1465 à 1477, et puis enfin le développement des institutions étatiques bourguignonnes. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé à propos des ducs précédents, mais avec le principat de Charles le Téméraire, ce sujet prend une nouvelle dimension. Philippe Contamine, donc Charles est né à Dijon, je crois.
Absolument.
Parce qu'il fallait que les ducs de Bourgogne naissent à Dijon, de la Maison des Valois, c'est ce qu'on nous dit en tout cas.
Pas nécessairement, mais enfin, en tout cas, il est né là.
Mais c'est Antoine Anneron, professeur à la Nouvelle Université de Louvain, qui fut son précepteur. Donc, il est formé dans les Pays-Bas bourguignons, lui.
Je pense qu'un prince de la stature du duc de Bourgogne, ou du futur duc de Bourgogne, au XVe siècle, bénéficier d'une éducation complète et très attentive. On savait très bien que la responsabilité d'un prince était considérable dans tous les domaines, parce que, peu ou prou, tout remonterait jusqu'à lui. Il ne pouvait pas être un prince, comme on dit de nos jours, ordinaire. Et donc, on savait très bien. Et par conséquent, il fallait à la fois lui donner une formation physique, qu'il soit, le moment venu, un parfait chevalier. Non seulement un parfait chevalier, mais également un parfait chef de guerre. Il fallait qu'il montre son courage sur les champs de bataille. Ce n'était pas une nécessité, mais enfin, dans la mesure du possible, c'était souhaitable. Et ça a été le cas de Charles le Téméraire, qui était courageux, courageux de nature, courageux par tempérament, et puis peut-être également par choix. Il lui fallait également, disons, connaître les manières de la cour, parce qu'il y avait une cour bourguignonne prestigieuse, des usages, entre hommes, entre femmes, etc. Donc il y avait cet aspect-là. Il lui fallait avoir une éducation scolaire, un minimum de culture, pas tout à fait naturellement une culture universitaire, mais quand même, et donc lui apprendre par exemple le latin. Il n'était pas mauvais dans son cas, et c'était, je crois, sa spécificité de connaître non seulement le français, qui était sa langue maternelle, mais également l'italien, mais également le néerlandais, parce qu'il avait à s'adresser à des sujets qui étaient néerlandophones. Et puis, il lui fallait également une éducation religieuse. Alors, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et je crois pouvoir dire, enfin, je parle sous contrôle, que Charles, le futur duc Charles, a été fort bien formé dans cette perspective. Alors ce qu'il en a fait, bon, il appartient à chaque prince d'utiliser les outils qu'on mettait entre ses mains, mais de ce point de vue-là, il était bien formé. Il était d'autant plus formé que finalement, il était seul.
Seul fils.
Il était seul
et
fils.
Unique héritier.
Unique héritier. Donc il faut songer à cette démographie du XVe siècle qui finalement est une démographie pauvre, étriquée et du même coup fragile. Après tout, le duc Charles, à son tour, n'a eu qu'une fille. Et donc ça a posé énormément dans son destin et dans le destin de la maison de Bourgogne. Donc tout reposait sur cet unique héritier. Alors il avait des parents à la fois remarquables, un peu écrasants également, de très fortes personnalités. Il y avait Philippe le Bon, le grand-duc de Ponant, le Lion des Flandres, qui avait admirablement réussi, et qui montrait dans tous les domaines un savoir-faire et en même temps un savoir-vivre tout à fait remarquable. Et puis sa mère, Isabelle de Portugal, pour laquelle, semble-t-il, il éprouvait, disons, une réelle, une sincère affection. Et on peut se demander même s'il y avait davantage de complicité entre la mère et le fils qu'entre le père et le fils.
Oui, on dit toujours que la duchesse soutenait son fils lors des éclats entre les deux caractères du père et du fils.
C'était son choix, c'était son tempérament. C'est une grande dame, Isabelle de Portugal, qui, à plusieurs reprises, non seulement a été duchesse de Bourgogne, etc., mais également a joué un rôle politique, puisque son mari n'hésitait pas à lui confier des missions d'ordre diplomatique.
Et alors, en ce qui concerne les responsabilités, parce que le duc Philippe avait eu des responsabilités quand il était lui-même le comte de Charolais, est-ce que Charles a exercé des responsabilités, par exemple militaire ou administratif, quand il était comte de Charolais?
Je crois qu'il a fait ses premières armes, son premier tournoi peut-être, lorsqu'il avait 18 ans, quelque chose comme ça. 18 ans, et ça a été un succès. Alors est-ce qu'on s'est arrangé pour que ce soit un succès? Je n'en sais rien. Je crois qu'il joutait contre un redoutable tournoyeur qui était Jacques de Lalaing. Jacques de Lalaing, c'est vraiment un champion. Eh bien, Jacques de Lalaing a eu l'élégance, la politesse, disons, la politique d'être vaincu par le jeune comte de Charolais. Et puis alors ensuite, il a fait son expérience militaire contre les Gantois, la guerre de Gavre, etc. Et là, il a joué un certain rôle. Il a montré, encore une fois, son courage sur le front des troupes. Donc, il a eu une expérience assez précoce. Mais il n'était que comte de Charolais, ce n'était pas grand-chose. Il y avait un système de gouvernement où il ne participait pas au sommet. En tout cas, il a fait son apprentissage dans des bonnes conditions. Il avait du reste, disons, une maison. Il avait une maison, il avait son entourage, il avait, disons, ses propres finances, en quelque sorte. Et il y a, dans son entourage, des gens qui l'ont suivi pendant très longtemps à travers sa carrière.
Bertrand Schnerb, oui, il avait donc des responsabilités.
Oui, si vous me permettez, donc je crois que précisément un des problèmes qui vont surgir entre le père, Philippe le Bon, et son fils, c'est que, contrairement à ce que, par exemple, Jean sans peur a pu faire pour son fils Philippe, Philippe le Bon a laissé finalement assez peu de responsabilités à Charles dans un système de gouvernement qui était, on pourrait dire, verrouillé par un certain nombre de personnages qui tenaient bon autour du duc. Et la cour de Philippe le Bon est une cour qui est finalement agitée par des tensions entre des clans. Et dans ce climat de tension, le prince héritier, le comte de Charolais, doit prendre parti contre des personnages, notamment la famille de Croy autour de Philippe le Bon, contre des personnages qui résistent à son influence. Donc il y a une véritable lutte pour le pouvoir. Et cela vient en partie du fait que Philippe le Bon n'a finalement pas laissé de grandes lieutenances avant les années 1464-65, et encore l'a-t-il fait à contre-cœur, de grandes lieutenances à son fils. En revanche, le prince a pu, se faire les dents sur des territoires qui lui ont été laissés, notamment dans le comté de Hollande. Vous parliez de son éducation au sein des Pays-Bas bourguignons. En effet, le comte de Charolais a eu un rôle politique dans les Pays-Bas bourguignons. Je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit M. Contamine à l'instant, aussi en ce qui concerne l'importance de la figure de la mère dans la formation de Charles. D'abord, en tant qu'enfant, il a été en fait attaché à l'hôtel de sa mère, et puis il est resté très très attaché à sa mère, jusqu'à revendiquer sa nature de portugais, n'est-ce pas ? Ça avait fait scandale devant les ambassadeurs du roi de France, nous autres portugais. Ça a même choqué une partie des gens de la cour de Bourgogne, et on voit très bien que Charles se revendique non seulement de cette origine portugaise, mais évidemment de cet attachement à sa mère. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire.
Bertrand Schnerb, encore une remarque en guise d'introduction. Pourquoi le téméraire? Parce que certains historiens préfèrent Charles le Hardi, ça faisait un petit peu comme son grand-père, ou Charles l'Audacieux, mais téméraire, et dans votre livre, vous avez décidé de garder cette appellation.
Oui, il y a tout ce thème des surnoms des princes. Le premier s'appelle Philippe le Hardi, On sait que ça remonte peut-être à la bataille de Poitiers. Jean sans peur a été désigné ainsi par les ambassadeurs anglais après la bataille d'Autée en 1408, Jean sans paour. Philippe était le bon duc Philippe, ce qui veut dire le brave, l'homme à la fois bon et brave. Le dernier duc a toute une série de surnoms également. Alors l'un de ses historiographes et l'un de ses admirateurs et l'un de ses serviteurs, Olivier de la Marche, explique qu'on l'appelait Charles le Travaillant. Parce que c'est un personnage qui avait visiblement non seulement une capacité de travail importante, mais aussi qui, évidemment, faisait peser un lourd poids sur ses serviteurs.
Il travaillait Charles, sur ses sujets.
Oui, il travaillait ses sujets. Et donc, c'est Charles le Travaillant. Donc, ça ne veut pas seulement dire le grand travailleur, mais ça veut dire celui qui pèse, n'est-ce pas? On l'a appelé Carolus Audax, Charles le Hardi, Charles l'Audacieux. Le téméraire, ça veut dire évidemment que son action l'a été aussi. Donc, c'est un peu un jugement a posteriori porté sur l'action du duc. C'est un surnom qui a apparaît très tôt, après pratiquement ses contemporains de sa mort. Je crois même que Thomas Bazin a dit de lui qu'il était téméraire, et il me semble qu'il doit y avoir à Nancy une inscription où on dit qu'il a été téméraire, qu'il a attaqué témérairement le duc de Lorraine. Donc son action a été jugée téméraire très tôt. Ensuite, bien, l'historiographie française a conserver cette appellation. Je veux dire que moi, je l'aime bien, cette appellation. Le Hardi, ben, le Hardi, oui, il y a Philippe le Hardi, donc c'est un peu dommage de prendre deux fois le même surnom pour les ducs de Bourgogne. Et c'est magnifique, le téméraire. J'aime beaucoup cette appellation, les armées du téméraire, les étendards du téméraire. Je trouve que ça a une connotation presque poétique et ça a une charge, oui.
Il y a bien des princes qui sont hardis et il n'y a guère qu'un seul téméraire.
Un seul téméraire, c'est son...
Et je pense aux historiographes parce que vous aviez dans les précédentes émissions parlé de Georges Châtelet en disant énormément de bien de cet homme et qui a pu être aussi l'historiographe du téméraire puisque je crois qu'il est mort en 1475.
Tout à fait.
Voilà, donc. Et Olivier de la Marche, fidèle. Philippe de Comines, moins fidèle hein, puisqu'il va se mettre au service de Louis XI. Parce que de temps en temps, la témérité de Charles va en décourager certains.
Pour et puis il y a Jean Molinet.
Oui.
Il y a Jean Molinet qui est le successeur de Georges Châtelain et qui évoque la suite du téméraire jusqu'à sa mort et au-delà.
Châtelain, qui d'ailleurs est un grand admirateur de Philippe le Bon, mais qui a un jugement plus nuancé sur son dernier maître. Plus nuancé. Olivier de la Marche n'est pas finalement aussi louangeur qu'il aurait pu l'être. Je suis toujours frappé par le récit qu'il fait de la mort de Charles le Téméraire. Nous, ses serviteurs, nous étions bien tristes car nous avions perdu toute source de chevance. En fait, ça veut dire que c'est notre source de revenus qui disparaissait. C'est, je dirais, une raison funèbre un peu cavalière.
Le conflit de Charles le Téméraire et de Louis XI, et qui est un enjeu essentiel d'une partie d'un échiquier entre ces deux grands princes. Alors Louis XI, au départ, quand il est arrivé sur le trône en 1461, n'a pas tout de suite été contre la stratégie de Charles VII contre les Bourguignons, puisque j'ai vu qu'il avait même nommé comme lieutenant général au duché de Normandie Charles Téméraire. Et il avait aussi donné des places de choix dans le gouvernement royal à certains bourguignons. Mais ça ne dura pas longtemps parce que très vite, en 1462-63, cette fois-ci, les crises se déclenchent. Et c'était des crises pour des raisons territoriales, la Picardie et les relations anglaises. C'est ça, Bertrand Schnerb.
Oui. Le roi Louis XI, avant d'être roi, le dauphin Louis avait été un personnage de la cour de Bourgogne, puisque Louis, en conflit avec son père, s'était réfugié à la cour de Bourgogne. Il avait été évidemment accueilli, il a même été le parrain de la petite Marie, future duchesse Marie de Bourgogne, l'unique fille de Charles, comte de Charolais et d'Isabelle de Bourbon. Donc il a contracté une dette à l'égard de la maison de Bourgogne, qu'il avait accueillie, qu'il avait protégée face à Charles VII. Lorsqu'il arrive à Reims pour son sacre en 1461, il est entouré d'une très brillante escorte bourguignonne. Il y a probablement une certaine habileté politique et diplomatique à d'abord donner des récompenses aux Bourguignons, puis ensuite faire comprendre à son oncle de Bourgogne qu'il n'est pas question qu'il devienne le nouveau Charles VI flanqué d'un nouveau Philippe le Hardi. Ce n'est pas sa manière de voir les choses. Donc évidemment, cette phase, cette lune de miel entre Louis XI et la maison de Bourgogne ne dure pas, d'autant que Louis XI a la volonté de liquider une partie des conséquences du traité d'Arras, et notamment reprendre,
les villes de Picardie.
Oui, racheter au duc de Bourgogne les villes de Picardie qui ont été cédées lors du traité d'Arras de 1435.
Et c'était un sujet de dispute d'ailleurs entre Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ces villes de Picardie, parce
oui.
Qu'elles soient bourguignonnes, ça permettait la sécurité des Pays-Bas bourguignons.
Ah ben c'est une formidable marche militaire, si j'ose dire, une marche, une frontière. Hein. Mais je crois que ça se rattache à ce que nous disions tout à l'heure à propos des querelles à l'intérieur de la cour de Bourgogne, parce qu'autour de Philippe le Bon, il y a ce qu'on pourrait dire un parti pro-français. Les Croyistes ne sont pas opposés aux visées politiques de Louis XI, bien au contraire, puisque Antoine, seigneur de Croy, et les siens vont favoriser le rachat des villes de la Somme par Louis XI. Ils vont conseiller au duc Philippe le Bon d'accepter le marché. C'est donc un des enjeux d'une lutte interne à la cour de Bourgogne. Et donc cela débouche sur une crise très grave au sein même de la cour, et ça débouche sur une animosité ouverte entre le comte de Charolais et Louis XI.
J'ajouterai deux choses. La première, je pense qu'effectivement Louis XI avait une dette envers la maison de Bourgogne, puisque la maison de Bourgogne l'avait entretenue du reste assez grassement. Et puis ensuite, à tort ou à raison, Louis XI n'était pas sûr que sa prise de pouvoir serait si aisée que cela. Il se méfiait énormément de l'entourage de Charles VII et par conséquent, dans un premier temps, il souhaitait s'appuyer sur les Bourguignons pour asseoir sa domination. Quand il a vu que finalement ses sujets lui obéissaient, les Bourguignons étaient moins indispensables. C'est un premier point. Et puis le deuxième point, en ce qui concerne le rachat des villes de la Somme, certes, Amiens, et si on veut, est un boulevard pour Arras, mais un boulevard également pour Paris, ça se lit dans les deux sens. Hein. Et d'autre part, le traité d'Arras formellement autorisait le rachat des villes de la Somme. En 1435, lorsqu'il a été conclu, probablement que Philippe le Bon se disait, en l'état, disons, de détresse économique, fiscale de la France, jamais le roi de France n'arrivera à rassembler cette somme considérable, 300 000 pièces d'or, disons. Et donc, grâce à la fiscalité remarquablement efficace, déjà, de la France des dernières années de Charles VII, et grâce, disons, à la reconstruction assez rapide, économique et commerciale de la France, eh bien, Louis XI a pu lever un impôt, une sorte de crue, c'est ce qu'on appelle une crue, pour le rachat des villes de la Somme.
Donc les crises sont sous-jacentes et puis après, il y a un moment où ça se déclenche d'une façon importante. Philippe Contamine, vous parliez des débuts des années de la royauté de Louis XI. Et en ce qui concerne la Ligue du bien public, qui est en fait animée par les anciens conseillers de Charles VII, qui étaient mécontents parce qu'ils étaient victimes d'une vague d'épuration.
Et à cet aspect-là, je pense que Louis XI, dans les premières années de son règne, a multiplié les faux pas. Il s'est aliéné une grande partie de l'opinion publique. Les princes, la noblesse, le clergé, éventuellement le peuple, etc. Et donc, il y a eu une coalition des mécontents, une coalition des biens particuliers. Et cette coalition de biens particuliers a trouvé un slogan, un magnifique slogan, c'est peut-être Dunois qui l'a trouvé, la Ligue du bien public. Formidable. Une des premières guerres d'Occident qui se place sous la bannière d'un slogan politique. C'est extraordinaire. Alors donc, cette Ligue du bien public réunissait beaucoup de mécontents, et en particulier, pour citer les principaux, il y avait le duc de Calabre, il y avait également le duc de Bretagne, et puis il y avait le comte de Charolais, et accessoirement, bien sûr, son père Philippe le Bon, qui lui a donné le feu vert. Alors donc, peut-être que ces gens avaient des ambitions différentes, des buts différents, mais s'étaient réunis pour bousculer, pour mettre au pas, éventuellement même, pour démettre et défaire le roi Louis XI.
Qui était donc un peu affaibli à ce moment-là.
Nettement, je pense que pour le comte de Charolais, puisqu'il s'agit de lui, l'objectif est essentiellement la récupération des villes de la Somme, mais c'est l'occasion évidemment de faire pression sur le roi en se plaçant au sein de cette ligue. C'est aussi très certainement pour le comte de Charolais un moment essentiel dans le processus de prise de contrôle de l'État bourguignon. c'est le moment où il est l'élément actif, à un moment où Philippe le Bon est un peu en retrait, un peu affaibli par l'âge. Le comte de Charolais, à ce moment-là, enfin, peut prendre des décisions, peut prendre la lieutenance générale dans les pays du duc de Bourgogne et prendre la tête des armées bourguignonnes face au roi de France. Et il joue un rôle essentiel dans cette curieuse bataille, qu'on appelle la bataille de Montlhéry, qui est un combat très particulier, avec deux camps qui crient victoire. Mais il montre là déjà à la fois son ardeur, sa témérité et peut-être certains défauts du chef de guerre qui seront plus marqués par la suite.
Il partait très vite et très fort, hein, parce que ça a failli être une victoire éclatante pour lui. Donc le roi Louis XI, il n'en menait pas large. Il a abandonné le champ de bataille, il s'est ensuite réfugié à Paris, et heureusement pour lui, les Parisiens n'ont pas pactisé, c'est ça le problème, n'ont pas pactisé avec les Bourguignons, alors que les Parisiens avaient été si longtemps favorables à la maison de Bourgogne. Et là, donc, il y a eu un changement de l'opinion, quelques citations, etc. Et donc le siège de Paris, en 1465, à la suite de la bataille de Montlhéry, s'est terminé, prétendu siège, par une sorte de cessez-le-feu, et Louis XI s'en est tiré en multipliant les concessions et en rendant à la maison de Bourgogne les villes de la Somme. Il n'a pas récupéré l'argent qu'il avait, 3 ans auparavant, versé au duc Philippe le Bon, n'est-ce pas ?
Belle opération.
Belle opération, n'est-ce pas ?
Avant qu'on ne parle de Péronne, parce qu'évidemment on pense aux villes de la Somme, et je pensais moi à l'Angleterre, parce que se passe-t-il en Angleterre à cette époque-là ? C'est la guerre des Deux Roses, les Lancastres sont soutenus par la couronne de France, les York par la Bourgogne, c'est encore un sujet de litige extrêmement aigu entre la Bourgogne et la France.
Oui, alors il est certain que cette guerre civile entre la maison de Lancastre et la maison de York implique les puissances continentales, le roi de France et de l'autre côté, la maison de Bourgogne. Finalement, assez curieusement, l'Angleterre devient une sorte de scène secondaire de la querelle entre le roi de France et le duc de Bourgogne. La maison de Bourgogne, d'abord très prudente, hein, parce qu'on ne sait pas au départ qui va prendre l'ascendant sur l'autre, des York et des Lancastres. La maison de Bourgogne, progressivement, prenant eh bien, le parti d'York. Surtout à partir de l'avènement de Charles le Téméraire. Charles le Téméraire qui va s'engager très avant dans l'alliance anglaise jusqu'à épouser une princesse anglaise. Alors évidemment, le duc de Bourgogne qui épouse Marguerite d'York, la sœur du roi Édouard IV d'Angleterre, c'est un moment très important dans cette tentative faite par le duc de Bourgogne pour recréer l'alliance anglo-bourguignonne qui avait été si dangereuse pour la couronne de
France. Et là, Louis XI aussi a dû sentir une nouvelle menace.
Incontestablement. C'était une menace dramatique pour lui. Disons, c'était la fin de cette réconciliation apparente entre la maison de France et la maison de Bourgogne. C'était le retour, comme l'a dit Bertrand Schlemm, à la situation en 1420. Donc c'était un véritable cauchemar pour Louis XI, d'autant qu'il était affaibli militairement, affaibli politiquement chez lui. Il avait rétabli in extremis la situation, mais enfin tout ça était fragile. Alors on voit très bien comment Louis XI était très attentif à tout cela. Il a misé en même temps sur le mauvais cheval. Autrement dit, il y avait deux rois, il y avait Henri VI, Lancastre, il y avait Édouard IV, York, et c'est Édouard IV qui l'a emporté.
Mais alors à l'entrevue de Péronne en octobre 68, ils se retrouvent, ça débouche sur un traité, mais ce traité va être très profitable au téméraire dans un premier temps.
Oui, c'est quelque chose d'assez particulier cette entrevue de Péronne parce que nous sommes au fond dans une période de veillée d'armes. On a l'impression que les deux puissances vont vraiment s'affronter militairement une nouvelle fois. Et Louis XI a finalement misé sur la diplomatie directe. Rencontrer le duc de Bourgogne, à ce moment-là, Charles le Téméraire, parce qu'il est devenu duc de Bourgogne le 15 juin 1467 à la mort de son père, Philippe le Bon. Il devient à ce moment-là duc de Bourgogne. Mais le fait que Louis XI ait voulu rencontrer Charles le Téméraire semble indiquer que le roi de France pensait pouvoir aplanir la querelle par une rencontre. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que finalement, on dit toujours que ces deux personnages sont des ennemis jurés, n'est-ce pas ? Ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils s'étaient bien connus quand même à la cour de Bourgogne quand le dauphin était à Genappe et qu'il fréquentait la cour de Bruxelles. Ils n'ont pas toujours été ennemis. Et visiblement, là, il y a une tentative de régler le problème par une rencontre. Entre princes, c'est toujours dangereux. Et effectivement, le problème est que la méfiance est extrêmement vive dans le camp bourguignon et que le duc de Bourgogne a, à ce moment-là, j'allais dire, une épine dans le flanc. Les pays bourguignons ont une épine dans le flanc. C'est la principauté de Liège, une principauté ecclésiastique sur lequel les ducs de Bourgogne essayent d'imposer une sorte de protectorat, si vous voulez, d'imposer leur contrôle. Ils essayent d'avoir au moins le contrôle du prince-évêque de Liège, d'avoir sur le siège épiscopal de Liège quelqu'un qui leur soit dévoué. Là, c'est alors un membre de la famille de Bourbon, Louis de Bourbon. Il se trouve que la principauté de Liège est tiraillée entre la politique des ducs de Bourgogne et la politique du roi de France. Et au moment de l'entrevue de Péronne, la principauté de Liège entre en révolte contre Louis de Bourbon, qui est l'homme sur lequel les ducs de Bourgogne ont compté pour asseoir leur autorité, leur contrôle sur la principauté, et Charles le Téméraire est persuadé que cette révolte
c'est Louis XI qui a fomenté.
Fomentée par Louis XI. Alors, l'a-t-il cru véritablement ou a-t-il feint de croire que Louis XI était coupable, ce qui lui donnait le prétexte de retenir le roi auprès de lui? La question se pose naturellement.
Il y a eu une grosse colère de la part du duc Charles, j'ai l'impression,
mais
quand même.
Il faisait de belles grosses colères, j'allais dire pédagogiques, n'est-ce
pédagogique.
Pas
pédagogique.
Mais je crois qu'il n'en faisait pas
est-ce
que
qu'il souhaitait, pédagogique. Disons, l'emprisonner durablement? Est-ce qu'il souhaitait, disons, l'assassiner? Je ne suis pas sûr, tout à fait. Bon, c'est quand même un peu fort, mais on ne sait jamais. Hein. Au XVe siècle, les passions, quelquefois, allaient au sommet. Après tout, il y avait bien eu des meurtres.
Oui.
Hein, le duc d'Orléans,
Jean Sans Peur, etc.
Et puis, les rois d'Angleterre, qui, à travers le XVe siècle, eh bien, ont été assassinés les uns après les autres. Donc, ce n'était pas exclu dans la politique de cette époque. Alors évidemment, le roi de France était le roi de France, peut-être un personnage sacré, peut-être que le duc de Bourgogne l'aurait in extremis protégé. En tout cas, il y a deux éléments. Premièrement, l'intention du duc de Bourgogne, feinte ou véridique, et deuxièmement, le ressenti de Louis XI. Sans doute que Louis XI a eu vraiment très peur.
Et ses conseillers avec lui. Le duc Charles le Téméraire, certainement, s'est dit, il faut que je profite de l'occasion. D'où ce traité de Péronne qui prévoyait, Charles le Téméraire connaissait bien Louis XI, qui prévoyait qu'en cas de violation par le roi de France, eh bien, du coup, les liens unissant le duc de Bourgogne à la couronne de France seraient rompus. En fait, il savait probablement bien que Louis XI, dès qu'il serait libre de ses mouvements, allait dénoncer un traité qui lui était, c'est vrai, extorqué par la violence, par la contrainte. Et donc, le traité permet, en fait, à Charles le Téméraire de poser des conditions et de prévoir, en fait, la violation, tout simplement, du traité, pour ensuite pouvoir déclarer que les terres de mouvance française qui sont à lui, qu'il tient, eh bien, que ces terres ne sont plus liées à la couronne de France et qu'elles en sont détachées.
Affirmer sa souveraineté vis-à-vis du roi de France. C'est quand même énorme.
Ouais, ouais.
C'est extraordinaire. Donc, il pouvait se prétendre non seulement mon très redouté seigneur, mais mon souverain seigneur à l'intérieur de ses possessions bourguignonnes situé en deçà des frontières traditionnelles du royaume de France. Un casus belli considérable.
Et il y a eu la guerre, justement, parce qu'elle a éclaté.
Bien sûr.
Évidemment.
Il est certain que Péronne, c'est effectivement une étape importante dans la construction d'un État bourguignon souverain, puisque Charles, après Péronne, après la dénonciation du traité par Louis XI, peut dire, voilà, je suis délié de tout lien de sujétion, de vassalité, de loyauté à l'égard du roi de France. Mais évidemment, c'est aussi, du point de vue du roi, disons-le, un crime de lèse-majesté, en fait. Parce qu'un vassal du roi de France qui déclare qu'il n'a plus aucun lien avec la couronne de France, en fait, est coupable de crimes de lèse-majesté. Donc on a maintenant deux entités vraiment antagonistes qui sont prêtes à s'affronter.
Et qui s'affrontent. Et juste pour la petite histoire, ça va être l'épisode de Jeanne Hachette à Beauvais qui n'est pas la gloire des Bourguignons. Nous allons voir que finalement, le centre de gravité de l'action politique de Charles de Bourgogne va se déplacer à l'Est. Mais ça sera dans la seconde émission qu'on va parler des ambitions impériales. Pour l'instant, on va parler des grandes réformes parce que quand Charles se met en campagne pour la première fois contre la France officiellement, c'est avec ses compagnies d'ordonnances. Il a déjà fait, depuis le temps qu'il est à la tête de la Bourgogne, énormément de réformes. Et des réformes de grande ampleur dans tous les domaines. Donc Bertrand Schneb, ces grandes réformes du temps de Charles le Téméraire, dans tous les domaines, disais-je, en finance, en administration, la justice, la souveraineté. On aurait dit qu'il avait tout mis à plat en 10 ans.
Oui, je crois qu'il avait de grandes ambitions. On ne peut d'ailleurs pas détacher totalement les grandes réformes que Charles le Téméraire va lancer à partir des débuts des années 1470 et ses ambitions impériales. Parce qu'il est très clair que se détacher complètement de la souveraineté du roi de France, lancer de grandes réformes étatiques, de grandes réformes institutionnelles, tout cela va de pair avec des ambitions qui sont peut-être des ambitions royales et qui sont certainement des ambitions tournées vers l'Empire. Donc ce sont des éléments qu'il faut connecter les uns aux autres. Mais il est certain que le duc de Bourgogne, on a parlé de sa formation, le duc de Bourgogne apprécie vraiment ce travail administratif. c'est un homme du règlement, un homme de la norme, un homme de l'ordre et de la règle. C'est d'ailleurs deux mots qu'il aime bien utiliser. Il n'est pas le seul à l'utiliser, mais ordre et règle, c'est pour lui un slogan politique pour bien désigner comment doit tourner l'État, comment va fonctionner l'État qu'il veut créer. Donc, effectivement, en quelques années, il va transformer profondément les institutions bourguignonnes. Il ne détruit pas tout, il garde les institutions, mais il les transforme. Les premières institutions, on ne sera pas étonné, les premières institutions auxquelles il s'attache, ce sont les institutions militaires. Pour des raisons très pratiques, c'est parce qu'il a l'impression que face à Louis XI, il faut avoir une armée permanente. Un chroniqueur bourguignon anonyme, parlant de la bataille de Montlhéry, dit « Voilà, le comte de Charolais a réussi à vaincre le roi de France, qui avait ses compagnies d'ordonnance, et le comte de Charolais avait une armée prêtée, en fait, prêtée par son père. » Et c'est une armée de ses vassaux, de ses fidèles, donc une armée de type féodal, si vous voulez, avec des gens qui servent parce qu'ils sont astreints à des obligations féodales. Mais Charles considère que malgré ses bons résultats, il faut avoir une armée toujours sur pied de guerre, comme le roi de France, prête à entrer en campagne, quelles que soient les circonstances. Donc il va, à partir de 1471, bâtir une armée permanente. Ça ne veut pas dire qu'il détruit le reste. Le reste de l'armée existe encore. Il y a encore toujours les levées féodales, il y a encore les mercenaires. Mais il va créer une armée avec les compagnies d'ordonnance à la manière française. Naturellement, je dirais, la nécessité pour lui, c'est aussi d'entretenir cette armée. Et donc là, il y a l'autre versant. Quand on crée une armée, il faut créer des institutions fiscales qui permettent la mise en place d'un impôt permanent.
Il a essayé, mais il n'y est pas vraiment arrivé.
C'est plus difficile.
Vous disiez tout à l'heure que Charles VII et Louis XI avaient des impôts permanents.
Deux remarques. D'abord, le duc Charles se veut également un prince justicier. Très important. Un prince justicier qui, disons, souhaite avoir l'écoute de ses sujets et recueillir leurs doléances, leurs plaintes. Et ça. L'audience du duc de Bourgogne, c'est un grand moment du gouvernement. Donc, ce n'est pas uniquement un chef de guerre, du reste, peut-être un chef de guerre pas si astucieux que ça. Et puis, ma deuxième remarque, c'est justement celle-là. Les grands succès militaires du duc Charles ont été remportés avec l'armée traditionnelle, à savoir Montlhéry, à savoir Brustem, à savoir le sac du Dinan, à savoir le sac de Liège, etc. Et au fur et à mesure qu'il perfectionne son instrument militaire, à coup de règlements, de mieux en mieux d'ordonnances, superbes ordonnances, rien ne manque, pas un bouton de guerre, etc. Et bien finalement, ce magnifique instrument militaire rencontre plus d'échecs que de succès.
C'est le grand paradoxe, effectivement, c'est le grand paradoxe de l'histoire militaire bourguignonne, c'est que l'armée permanente bourguignonne va rencontrer la défaite, va participer à la défaite.
Comme il avait une armée permanente, il a eu envie de faire de grandes entreprises, de trop grandes entreprises.
Oui, c'est possible. Alors, il aurait été téméraire dans ces cas-là, si je vous suis bien, c'est possible. Alors, pour continuer sur les réformes, il y a donc cette idée d'armée permanente. Et puis, il y a à côté de cela, alors un peu plus tard, 1473, une véritable volonté, j'allais dire centralisatrice, puisque Charles va tenter de rationaliser la vérification et le contrôle des comptes en créant une chambre des comptes unique pour les Pays-Bas bourguignons qu'il va installer à Malines.
Parce que Malines risque de devenir la capitale administrative.
Oui, il a choisi Malines. C'est bien Malines parce que c'est une seigneurie enclavée dans le Brabant. Elle est donc en terre d'empire, donc hors du royaume de France. Elle ne fait pas partie d'une de ces grandes principautés type comté de Flandre ou duché de Brabant. C'est une ville de résidence. C'est une ville qui, en principe, est tranquille. Enfin, il y a quelques révoltes urbaines quand même aussi à Malines. C'est une ville que le duc a bien dans sa main. Donc, il installe là une chambre des comptes en supprimant celle de Bruxelles, celle de Lille qui existait. Et il centralise à Malines, tandis que Dijon a sa chambre des comptes pour les pays du Sud, c'est-à-dire Franche-Comté, Bourgogne et pays circonvoisins. Et puis à Malines, il va, en 1473 également, alors là nous rejoignons évidemment le prince justicier, qui considère que la justice est la fonction essentielle du prince, le Parlement, qui est donc une cour souveraine qui va être installée à Malines. Un autre crime de lèse-majesté, après la mort de Charles le Téméraire, Louis XI fera instruire un procès contre Charles, et la création du Parlement de Malines, cour souveraine pour l'ensemble des pays bas bourguignon, est considéré par le roi comme un crime de lèse-majesté, puisque était la compétence territoriale de cette cour de Malines et bien des terres qui en principe relevaient du Parlement de Paris.
Merci messieurs et rendez-vous bientôt pour la toute dernière émission de cette série historique.